Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Du 15 avril au 15 octobre, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne vous consulte sur les grandes orientations d'usage, le document le plus important en matière de gestion des cours d'eau. Chaque mois, SOS Loire Vivante vous informe pour vous permettre de donner votre avis. Ensemble, prenons soin de l'eau. Pour obtenir des rivières en bon état d'ici 2015, comme nous le demande l'Europe, nous allons devoir trouver des solutions aux nombreuses agressions subies par les rivières. Parmi ces agressions, on nous parle de l'artificialisation de la morphologie, qui serait le problème numéro 1 sur le bassin de la Loire. L'artificialisation de la morphologie, ça veut dire quoi? Pour nous éclairer sur cette étrange affaire, je reçois aujourd'hui Jean-Paul Bravard, professeur de géographie à l'Université Lumière Lyon 2. Jean-Paul Bravard a également de nombreuses responsabilités prestigieuses, parmi lesquelles il est responsable de la zone atelier du bassin du Rhône, une fédération de laboratoires de recherche. Alors, monsieur Bravard, sur la Loire et ses affluents, l'artificialisation de la morphologie est l'un des principaux problèmes à résoudre pour atteindre le bon état écologique, c'est-à-dire des rivières en bon état en 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la morphologie d'un cours d'eau ?
Alors, la morphologie d'un cours d'eau, la morphologie vient du grec qui signifie la forme. Alors, vous avez des cours d'eau plus ou moins profonds, plus ou moins larges. Et en fait, certains ont un lit unique, des sinuosités qu'on appelle des méandres. D'autres ont des lits multiples, on parle de tresses. Palier, par exemple, était une rivière en tresse et on voit qu'elle est encore encombrée de galets. Ces galets traduisent une morphologie particulière et cette morphologie, elle est liée à des facteurs. Ces facteurs, par exemple, c'est les crues. Lorsqu'il y a une rivière à de fortes crues ou lorsqu'il y a beaucoup de cailloutis qui circulent dans le cours d'eau, la morphologie est particulière. L'intérêt de la Loire ou de l'Allier, c'est leur morphologie qui dépend d'une période où il y a eu beaucoup de transports de sable, de cailloux véhiculés par des crues importantes. La morphologie traduit le fonctionnement d'un bassin versant, en quelque sorte.
Alors, en quoi la morphologie de la Loire a-t-elle été artificialisée ?
Eh bien, le bassin Loire-Bretagne a été aménagé historiquement depuis peut-être au moins le XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle par des levées, c'est-à-dire par des digues, puis à l'intérieur des levées par des structures en pierre, en bloc, des petites digues basses destinées à concentrer l'eau pour la navigation. Plus haut dans le bassin, des barrages ont été construits, notamment sur la Loire, pour retenir de l'eau, pour contrôler les crues. Et ces aménagements ont profondément modifié la façon de transporter les matériaux, les sédiments, ce sable et ce gravier. Cette altération du transport des graviers, cette altération des crues dues au barrage, a eu des répercussions sur la morphologie. C'est-à-dire que cette morphologie s'est réajustée, s'est réadaptée. Aujourd'hui, par exemple, la Loire manque de sable et de gravier, parce qu'on en a beaucoup extrait. Ce manque se traduit dans une transformation du paysage du fleuve.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en Loire-Bretagne incite à réduire le nombre de seuils et de barrages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il serait utile de les enlever ?
La Loire et l'Allier sont des cours d'eau remarquables à l'échelle de l'Europe parce qu'ils permettent la remontée, la reproduction des saumons. Or, ces barrages, ces seuils, même s'ils font 1,50 m, 2 mètres de haut, sont des obstacles. Surtout multipliés sur la route du saumon. Et supprimer ces barrages, c'est restaurer une continuité. Voilà, c'est ça qui compte. Et les tentatives qui ont été faites se soldent, d'après les spécialistes, par de très bonnes conséquences pour le cours d'eau.
Et quelles sont les conséquences des barrages pour l'économie ?
Pour l'économie, ce sont des conséquences positives. On est devant une production hydroélectrique, par exemple, qui est utile aux collectivités ou qui est mise sur le réseau. Donc ces effets positifs expliquent qu'il y ait beaucoup de barrages, mais en même temps, aujourd'hui, on met en cause les effets négatifs. Alors, je ne suis pas personnellement contre tous les barrages, loin de là, mais il y a des cours d'eau où probablement il faudrait contrôler très précisément leur nombre. Et peut-être même en supprimer. Sur les hauts bassins de la Loire ou de l'Allier, par exemple, notamment de l'Allier, c'est quelque chose de positif que de les supprimer, parce que c'est la seule continuité qui existe quasiment en Europe pour un grand fleuve entre la mer et les sources.
Monsieur Bravard, en tant que spécialiste de la morphologie des cours d'eau, que pensez-vous du développement des micro-centrales électriques ?
Moi, je n'en pense pas beaucoup de bien, pour les mêmes raisons. Peut-être en faut-il, peut-être que sur certains cours d'eau déjà très aménagés, on pourrait en mettre, mais il y a des cours d'eau sur lesquels il faudrait éviter et il faudrait trouver des solutions alternatives, plutôt que de tronçonner, que de saucissonner ces rivières-là.
Pour l'instant, il y a une prévision de mettre des micro-centrales, surtout en tête de bassin.
Oui, justement. Donc, ce sont les têtes de bassin qui fournissent les matériaux, qui forment des crues. C'est là qu'en général, il y a la faune la plus intéressante, notamment les salmonidés, les truites en particulier. C'est là que les saumons aimeraient bien remonter. Donc, je crois qu'il faudrait probablement des plans pour arriver à zoner ces types de cours d'eau et en préserver un maximum ce qui reste à l'état naturel, quand c'est possible. Voire même en supprimant des vieux barrages qu'on a tendance à équiper en micro-centrales. Alors c'est un débat, est-ce qu'il faut les conserver en tant que patrimoine, ces vieux seuils, et les équiper de micro-centrales, ou est-ce qu'il ne faudrait pas carrément rétablir des continuités ? Je crois que sur un nombre de cours d'eau importants, il faudrait rétablir des continuités autant que faire se peut.
Un autre enjeu de la restauration de la morphologie des cours d'eau consiste à redonner son espace de mobilité à la rivière. C'est quoi l'espace de mobilité ? Et pourquoi a-t-il disparu ?
Bien, les rivières, à l'état naturel, se déplacent généralement dans leur plaine alluviale. Et c'est ce déplacement qui est producteur des sables et des graviers qui descendent vers l'aval. Par exemple, lorsqu'il y avait eu la grande crue de 1856, après avait montré que les graviers et les sables qui descendaient dans le Val-de-Loire venaient presque exclusivement de l'érosion des berges. Ce stock alimente la descente des matériaux. Or, au fil des siècles, on a construit des digues, on a enroché, empêché la rivière de migrer, pour protéger des terres, évidemment, pour protéger des villes, des villages, des routes, des ponts. Et ce faisant, on a bloqué la capacité de la rivière à se recharger, comme on dit, en sable, en gravier. Donc l'espace de mobilité, c'est la laisser faire, la laisser se déplacer pour qu'elle puisse reprendre ses sables et les envoyer vers l'aval. Alors, l'espace de mobilité, il faut le définir pour que cette rivière puisse, dans les décennies, voire les siècles qui viennent, continuer d'accomplir son travail.
Jean-Paul Bravard, quelles sont les activités humaines qui menacent le plus cet espace de mobilité ?
L'espace de mobilité est menacé par tous les projets d'enrochement qui visent à stopper et bloquer l'érosion des berges. Donc c'est essentiellement cela. Aujourd'hui, la tendance est à cesser la construction des enrochements, sauf à la traversée des villes et des villages qu'il faut quand même protéger. Et dans pas mal de cas, à démonter des enrochements, à les déconstruire, hein, pour prendre un langage correct, et à restaurer cette mobilité. Bon, ça se fait tout doucement, mais la tendance est en train de s'inverser par rapport aux grandes années de l'enrochement des années 50, 60, 70.
Mais alors, d'un point de vue écologique, pourquoi est-ce que c'est important de préserver cet espace de mobilité ?
Alors, sur le plan écologique, l'espace de mobilité, ça signifie que quand la rivière migre, se déplace, elle balaye tout un secteur. Balayer, ça veut dire que son lit se déplace et sur les marges du lit se construisent des bancs de galets, des bancs de sable, frais, tout jeunes, à une basse altitude, à un bas niveau par rapport à la rivière. Ce qui veut dire que les racines des plantes sont baignées par la nappe phréatique, par l'eau. Il y a une grande humidité. Et surtout, sur ces sables jeunes, sur ces graviers frais, s'installent des plantes qu'on appelle les plantes pionnières. Il y a par exemple les saules, ce qu'on appelle une mosaïque de biotopes, c'est-à-dire de petits espaces sur lesquels va s'installer une végétation originale, une faune adaptée, et on sait que dans ces espaces, il y a une grande richesse. Alors évidemment, plus l'espace de mobilité est grand, mieux c'est pour la rivière. Alors bien sûr, c'est en contradiction dans certains cas avec l'utilisation agricole des terres, mais les compromis sont nécessaires. Puis également, on sait que lorsqu'on a cet espace de mobilité, on a une très bonne relation entre l'eau superficielle qui s'écoule et l'eau souterraine. Et cette très bonne relation permet ce qu'on appelle l'auto-épuration des eaux, c'est-à-dire qu'elle améliore la qualité dégradée par exemple par des rejets urbains. C'est tout un complexe, c'est-à-dire que toute cette eau qui circule dans la bande de mobilité et qui déborde, qui inonde, qui s'infiltre, tout ça, c'est un bon fonctionnement. Alors, il y a des effets, évidemment, immédiatement négatifs à court terme sur certains aspects de l'économie, mais globalement, c'est un fonctionnement qu'il faudrait absolument préserver.
Alors, pour revenir sur certains barrages, un des aspects négatifs, c'est leur impact sur les petites et les moyennes crues que les barrages font disparaître. Quelles sont les conséquences écologiques de la disparition de ces crues?
Alors, quand on a des réservoirs, les barrages est associé à un réservoir. Le barrage est le mur et le réservoir est derrière, il stocke l'eau. Lorsque l'on a des réservoirs, on est tenté de les remplir, évidemment, pour utiliser l'eau, par exemple pour la production électrique. Et chaque fois qu'on va remplir ce barrage, on va stocker, en effet, les petites et les moyennes crues. Qu'est-ce qui se passe? Si le cours d'eau à l'aval d'un barrage n'a plus ses petites et ses moyennes crues, la végétation envahit les bancs de sable, les bancs de galets. Elle va gêner le passage des grandes crues qui vont venir après. On s'aperçoit que dans le Val-de-Loire, il y a un fort développement de la végétation dans le lit. C'est en partie dû aux barrages qui retiennent les sédiments, aux digues qui bloquent l'érosion des berges, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de sédiments qui circulent dans la rivière. Et puis, c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez de petites et moyennes crues. Et c'est tout cet ensemble qui a été perturbé et qui fait que l'écosystème réagit d'une manière indésirable.
C'était Jean-Paul Bravard, professeur de géographie à l'Université Lumière Lyon 2 et responsable de la zone atelier du bassin du Rhône. Cette émission vous est présentée tous les mois par SOS Loire Vivante avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donnez votre avis sur l'usage. Un questionnaire vous sera bientôt envoyé chez vous. Ensemble, prenons soin de l'eau.